satellite libanais Hezbollah 2 jours après des...
Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, liberty and justice for all.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans cette édition de l'Amérique et vous, Eric Manila Kiza en votre compagnie, Lionel Lunanila Gahima assure la mise en onde. Ce soir, nous parlons de la décolonisation de la pensée. Quels sont les enjeux et les limites de la pensée postcoloniale? En quoi le courant postcolonial apparaît-il original? Comment comprendre ce que fait le journalisme en contexte postcolonial? Nous en parlons dans un instant avec 3 invités qui s'inscrivent dans la pensée postcoloniale. Hervé Chumkan, professeur à Southern Methodist University. Il enseigne des cours relatifs à la littérature francophone et aux études postcoloniales. Ses ouvrages incluent State Power, Stigmatization and Youth Resistance Culture in the French Banlieue, Avoir peur, insécurité et roman en Afrique francophone, Precarious Lives and Marginal Bodies in North Africa. Notre deuxième invité, c'est le docteur Anjan Sundaram. Il est auteur de 3 ouvrages sur l'Afrique, incluant Stringer à propos de la République démocratique du Congo, Bad News sur la situation des journalistes au Rwanda et The Road Through War, relatant son expérience dans les zones des guerres en République centrafricaine. Il a obtenu son doctorat à l'Université of East Anglia en 2018. Il s'intéresse aux questions du journalisme postcolonial. Enfin, Jean-Pierre Caligueye, c'est un habitué de la Voix de l'Amérique. Il est professeur à Dickinson College. Formé en littérature francophone, il a une formation pluridisciplinaire, littérature francophone, philosophie, linguistique africaine, éthique sociale et théologie. Il enseigne des cours portant sur plusieurs disciplines comme celui-ci, dialogue entre la philosophie et la littérature. Il a aussi publié et co-dirigé des ouvrages sur plusieurs sujets, dont l'Église catholique à l'épreuve du génocide, Récit du génocide, traversée de la mémoire et récemment Religion in War and Peace in Africa. Dans un instant, nous commençons notre débat.
Essentiellement dans la pensée postcoloniale, vous parlez de homo expedibilis et vous reprenez la notion de précarité chez Judith Butler. Comment cela s'articule avec les réalités africaines et la pensée postcoloniale?
Comment est-ce que ça s'articule avec les réalités africaines et la pensée postcoloniale? Il s'agit simplement de regarder à partir d'un concept opératoire. J'ai parlé d'homo expedibilis. En fait, ça m'est inspiré de Homo sapiens chez Agamben, philosophe italien, mais c'est de regarder les manières dont finalement il y a une certaine production d'intersécurité, si vous voulez, en contexte africain. Autrement dit, le rapport qui existe entre la marginalité et les questions d'insécurité sont très souvent bottés en touche. Et de ce point de vue-là, c'est ma modeste contribution à moi, ma position, ma contribution dans ce travail, c'est de montrer qu'en fait, ce qui se passe en Afrique, en termes d'hostilité, diffusion de sang, il ne s'agit pas d'une Afrique qui ne serait pas civilisée. Attention, parce que ça c'est le discours contre lequel je m'oppose. Mais précisément ce que j'essaie de montrer dans cet ouvrage, c'est qu'il s'agit plutôt d'une Afrique qui a produit la société indécente. Vous voyez ? Donc, l'indécence, le concept de société indécente, me semble ici plus opérationnel que le vieux contexte retravaillé, très actualisé, de société non civilisée. Donc, il ne s'agit, si vous voulez, il ne s'agit pas de dire que l'Afrique est faite paradisiaque tout de suite, mais il s'agit plutôt d'approcher assez objectivement, si je peux le dire, les problèmes de l'Afrique, sans en nier les difficultés et les faiblesses, mais sans non plus rester fiché dans un discours qui reproduirait simplement les émotions liées aux inégalités et aux incapacités forcément ancrées dans la race. Et c'est ça qui est la question.
Pour vous, professeur Jean-Pierre, dans un de vos textes littérature post-génocide, vous employez le mot post, est-ce en référence avec le poste de la post-colonie?
Tout à fait, tout à fait. Oui, c'est ce qu'il y a. Et je crois un événement comme le génocide au Rwanda, a été possible justement à partir d'un certain ensemble de disciplines qui décrivaient ces sociétés africaines et surtout et le Rwanda. Donc en parlant de post-génocide, c'est justement repenser, si vous voulez, penser à de nouvelles approches pour pouvoir répondre à certaines questions que la société rwandaise ou africaine se pose après cet événement. Et cela, évidemment, exige qu'on puisse balayer le terrain en rompant, si possible, avec des anciens paradigmes, par exemple ethnographiques, qui ont provoqué, si vous voulez, le crime et inventé le Rwanda ou l'Afrique. Et donc, quand je parle de littérature post-génocide ou de la pensée post-génocide, donc c'est parce que je constate que le projet de société après le génocide, donc au Rwanda, autant que ce que je pourrais appeler la quête du sens, passe par une corrélation entre l'expérience rwandaise, africaine et la théorie. Donc c'est dans cette perspective, je crois, l'après-génocide exige dans une certaine mesure le renouvellement et certaines disciplines des sciences humaines et sociales en Afrique. Et dans ce cas-là, par exemple, dans le cas précisément du Rwanda, toutes ces nouvelles pratiques comme Umuganda, Girinka, Imihigo, etc., qui sont inspirées de la tradition rwandaise, et pour moi, ça apporte quelque chose, donc c'est construit à partir d'une certaine compréhension de la société rwandaise. Je crois que c'est essentiellement d'abord un travail théorique dans la façon de penser ce que nous faisons et de penser ce qui se passe, et je crois que c'est dans ça que je pourrais appeler post-génocide. Et d'ailleurs, qui vient pas, c'est pas moi qui ai inventé ça ou qui ai pensé, j'ai constaté que dans plusieurs disciplines africaines, les questions que je me pose sont posées par plusieurs auteurs. D'ailleurs, par exemple, Nganang, qui est un écrivain camerounais, disait qu'on ne peut plus faire de la littérature africaine comme s'il n'y avait pas génocide au Rwanda, donc c'est un événement qu'on ne peut pas ignorer. Ou un autre camerounais, Ebussi Boulaga, qui avait coordonné un livre, coédité un livre, et qui s'appelle « Les interrogations des intellectuels africains face au génocide du Rwanda ». Donc ça aussi, c'est un point de vue d'un philosophe, ou Kamana, par rapport à la théologie, qui part du Rwanda comme point de départ d'une nouvelle évangélisation, d'une nouvelle théologie. Et voilà, donc, ce sont des questions qu'on se pose à un moment après cet événement. On dit, mais pourquoi est-ce que ça a eu lieu, et comment est-ce qu'on répond en tant qu'Africain, et pas seulement en tant qu'Africain, donc en tant qu'intellectuel, ou en tant que toute personne intéressée par cet événement. Et donc, dans le poste, pour moi, il s'agit de penser à ces enjeux théoriques et qu'on se pose à partir de nos disciplines.
Jean, votre réaction?
Je suis d'accord qu'il y a un manque de narratif, je parle du point de vue journalistique, il y a un manque de point de vue, des perspectives africaines et asiatiques sur le monde et parfois sur la propre région. Je trouve que c'est en fait aux Africains et aux Asiatiques de participer à créer cette nouvelle narrative. Je donne un petit exemple. Quand j'étais en Centrafrique en tant que journaliste, il y avait une guerre, il y avait comme des centaines de milliers de déplacés. Et en fait, les seuls journalistes que je trouvais sur place, malheureusement, c'était des journalistes envoyés de Londres. Il y avait des journalistes envoyés de New York, il y avait un. Et en fait, malheureusement, je trouvais qu'il n'y avait pas de journalistes ni ghanéens, ni kenyans, ni sud-africains. C'est tous des pays avec beaucoup d'argent, avec une industrie de médias assez développée et assez riche, qui ont des ressources pour envoyer des journalistes, par exemple, dans une situation pour rapporter sur la situation. Et malheureusement, et ça se passe en Asie aussi, malheureusement, on ne trouve pas ces journalistes sur place. Alors dans ce vide, je trouve que justement, il y a les perspectives des autres. On parle souvent des journalistes anglais ou américains, des journalistes occidentaux, qui prennent le dessus. Parce que justement, les Africains et nous les Asiatiques, on ne s'impose pas, on n'offre pas au monde international notre perspective. Et dans le vide, il y a les autres qui sont écoutés. Et je trouve que ça passe, c'est plus qu'une question de ressources financières ou quoi, c'est aussi une question psychologique. Quand j'ai proposé, j'ai fait quelques séries de télévision, un sur l'Inde et un partout au monde, et quand j'ai proposé à une chaîne asiatique de faire une série de télévision sur les États-Unis, sur le pays actuel, après les élections de Donald Trump et tout ça, comment les États-Unis changent, la chaîne m'a répondu, ben, tu peux faire une série sur les Indiens aux États-Unis. J'ai dit, mais non, je veux faire une série sur les États-Unis. Ils ont dit, pourquoi pas les grands riches asiatiques aux États-Unis. Et en fait, j'ai compris qu'il y a une question psychologique. On n'a pas la confiance d'envoyer une équipe asiatique ou bien africaine aux pays occidentaux, comme eux, ils le font chez nous, pour faire un discours objectif et large sur leur pays. Et quand ils font librement de nous. Et ça, je trouve qu'il y a un vrai manque dans l'industrie des médias en Afrique et en Asie. Il n'y a pas cette perspective, cette volonté à décrire, à faire un discours, à offrir une perspective sur le monde entier. Et je trouve que ça serait un pas qui serait pas mal. Ça serait une bonne chose à commencer à faire ça. Ça se passe petit à petit, par exemple en Inde, mais pas assez pour nous.
Hervé, en quoi le courant post-colonial apparaît-il original pour vous?
Il me semble fondamental, parce qu'au fond, et je reviens, si vous permettez, à ce que Jean vient de dire, il pose une problématique réellement post-coloniale. Parce que précisément, cette vide-là et cette absence-là, ou cette silence-là, doivent être interprétées, comprenez? Évidemment, ces silences sont là, ces vides sont là, mais on ne les interprète pas très souvent. Et c'est à ça que nous nous appelons, en théorie post-coloniale. Et les interprétations vont varier. Elles vont varier simplement parce que, autant l'Afrique ou l'Asie, comme il dit, a une responsabilité là-dedans, autant leurs partenaires occidentaux, ce que j'appellerais leurs complices, s'arrangent avec eux pour que justement ce silence-là demeure. Je prends un exemple simple. Je prends le cas de l'Académie. Et Jean-Pierre ne me démentira pas. Regardons dans l'Académie, par exemple. Quand on parle de théorie post-coloniale, il y a comme une sorte de géopolitique, si vous voulez, hein, de géopolitique du savoir, qui fait que certaines voix sont littéralement minorées, sinon silencieuses, tandis qu'on promeut d'autres voix. Mais tout ça se joue toujours à partir d'une perspective. Donc, d'une certaine manière, quand la perspective est, on va dire, eurocentrique, le discours semble plus accepté, le discours semble être plus rapidement lu. Et il suffit de faire un tour dans les bibliothèques d'université, y compris des universités de recherche, quand la question porte sur l'Afrique. Je vous invite à aller voir combien de livres écrits par des Africains sont consultés en comparaison à d'autres livres écrits par des non-Africains sur l'Afrique qui apparaissent toujours comme des hyper spécialistes. Et c'est là où je crois que Jean-Pierre a raison de parler de cette sorte de suivance à la limite du discours presque colonial, hein, et même racial. Parce que finalement, peut parler de l'Afrique qui veut, mais attends. L'Africain, lui, ne peut pas parler d'autre chose en général, et parfois même pas de son propre continent. Donc je crois que ce sont des lignes de fracture qu'il va falloir continuer d'étudier, mais surtout de faire reculer, pour que finalement l'Afrique ait un discours propre à lui-même, qui ne serait pas un discours qui est, on va dire, en dehors des réalités, mais en tout cas que l'Afrique ait son mot à dire, et quand je dis l'Afrique, je ne parle pas de l'Afrique officielle, parce que les chefs d'État africains ont fait très bien faire le type de discours qu'ils tiennent. C'est le type de discours qui correspond à ce que veulent leurs partenaires et leurs clients occidentaux. Mais je crois, et c'est en ça que je trouve le discours de la théorie postcoloniale intéressante, c'est, pour parodier le titre de mon ouvrage, d'essayer de donner une voix et une visibilité à ces marginaux qui ont été rendus silencieux et invisibles.
Juste une petite réaction.
Oui,
ce que Hervé vient de dire, ça existe aussi dans le journalisme. Et je trouve justement la réaction serrée, il ne faut pas attendre aux puissances occidentaux de nous écouter ou de nous rendre visibles. Je souhaiterais plus une industrie, plus une académie, une industrie des médias qui est créée par les Africains par les Asiatiques, où on se valorise nous propres comment, au lieu d'attendre que les Occidentaux, par exemple, nous rendent visibles, ou nous donnent, nous accordent de l'importance. Souvent, c'est ça qui se passe, malheureusement.
Jean-Pierre?
Oui, je crois que cette pensée, évidemment, elle est pertinente et évidemment, il y a beaucoup de défis et ce n'est pas pour rien que beaucoup enfin, moi, je parlerai beaucoup plus, j'insistais sur l'aspect africain parce que c'est lui que je connais le plus tout en lisant d'autres théories et beaucoup, et Hervé le sait et Andiane, je me dis aussi, là, parce qu'il s'intéresse au continent africain, beaucoup d'ouvrages intellectuels africains qui ont commencé à parler de la décolonisation de la pensée, que ce soit dans les romans, dans les ouvrages de réflexion, ils avaient le thème plutôt de la mort. Donc, où, pour certains, et ils avaient l'impression qu'ils étaient désarmés face à des situations de décolonisation, que ce soit, par exemple, dans les ouvrages, par exemple, de Modimbe et autres. Mais je crois que ce qu'il y a, c'est le plus important, c'est de savoir se battre avec les armes qu'on a et comme on le trouve par exemple dans l'aventure ambiguë et autres ouvrages. Et aujourd'hui, c'est vrai, les défis, il y en a, mais le point, je crois, sur lequel on devrait davantage réfléchir, c'est nous rendre compte aussi du déficit, si vous voulez, reprenant l'idée d'une intellectuelle sénégalaise, Mamame Panda, parlant par exemple des études des sciences politiques, constatant que par exemple en Afrique, il y a beaucoup de départements de sciences politiques, mais aucun des départements, par exemple, ne s'intéresse à inscrire la question du génocide qu'il y a eu au Rwanda dans les études. Il a fait une étude et à partir de beaucoup de départements au Sénégal, des sciences politiques. Et il a fini par parler, par exemple, du déficit de l'intellectuel africain. Donc, qu'est-ce à dire? C'est vrai, on n'a pas besoin d'être pris en charge par des institutions occidentales, qu'elles soient universités, qu'elles soient les journaux, etc. Mais que nous soyons nous-mêmes capables de pouvoir faire une sorte d'inventaire de tous les enjeux qu'il y a en Afrique et savoir les aborder avec nos moyens. Et je crois que ça, c'est un des défis, je dirais, parce que nous continuons à travailler à partir des institutions, qu'elles soient universitaires, comme l'a dit Hervé, que ce soit journalistique, comme l'a dit Anjan, et toutes ces institutions, dans une certaine mesure, restent dans, ce sont des cadres, si vous voulez, de cette pensée coloniale. Et comment pouvoir nous inventer à l'intérieur ou à l'extérieur. Et je crois que ça, c'est un des défis.
En fait, justement, je trouve que ce que Jean-Pierre vient de dire, Hervé vient de l'évoquer aussi, beaucoup d'ouvrages, par exemple, sur l'Afrique, notamment, parlent du mort. Je trouve que justement, dans le monde actuel, dans le monde nouvel, il y a une drôle de réaction à ça. Et on le voit très simplement, par exemple, dans les pages de couverture sur l'Économiste, il y avait que pendant un certain moment l'Afrique l'enfer, après l'Afrique qui monte, tu vois, Africa Rising, après encore Africa qui stagne. C'est comme si c'est une pendule, c'est un pendule, on dit en français, qui passe d'un côté un extrême à l'autre, sans avoir une narrative nuancée. Et souvent, par exemple, quand je parle de mon reportage sur le sens d'Afrique, qui était très peu rapporté en Afrique, ou bien dans le monde entier, la situation là-bas, par exemple, de la guerre et tout ça, il y a une tendance à dire, l'Afrique monte, l'Afrique est en croissance. Pourquoi vous parlez toujours des situations soi-disant négatives, comme la guerre en Centrafrique? Et ça, je trouve, je comprends pourquoi les gens disent ça, mais je trouve que c'est un peu dommage, parce qu'il y a des vraies personnes, des humains, qui souffrent là-bas. Et le journalisme a une fonction, comme le journalisme a une fonction aux États-Unis, en Europe, en Inde, a une fonction aussi dans cette guerre, à éliminer la situation là-bas pour que, par exemple, les crimes contre l'humanité s'arrêtent ou ne passent pas à l'extrême, le média a ce pouvoir.
Et si vous me permettez, Eric, là j'aimerais réagir. Et je crois que dès le début, on a dit ce que nous demandons, c'est qu'il y ait une analyse rigoureuse des situations africaines. Et nous savons que quand vous faites une analyse rigoureuse, évidemment, il y a ce qui est positif, il y a ce qui est négatif. On ne demande pas qu'on puisse couvrir d'un linceul, par exemple, la misère ou les misères qu'il y a en Afrique. Mais ce que nous refusons, quand j'ai dit nous, moi, tant qu'intellectuel africain, c'est que cette pauvreté, l'histoire de la pauvreté en Afrique, de la misère, soit ce qu'on appellerait « single story ». Que ce soit seulement « c'est ça l'Afrique » et c'est ça ce qu'on refuse. Et qui est comme une reprise des sept chansons qu'on entend souvent sur l'Afrique. Et là aussi, c'est à partir de là, ces sept peintures se lient aussi dans la narration. Donc, si vous prenez une distance, je m'excuse encore en Diane, prenons par exemple même le livre sur Kinshasa. Quand vous parlez par exemple de la façon quand on vous a volé par exemple votre portable, ou bien quand vous décrivez l'histoire des moustiques, par exemple là où vous passez la nuit dans cette maison, etc. Mais vous êtes là presque comme, vous êtes victime donc d'une situation. Je ne dis pas que ça ne doit pas être décrit, mais le danger, c'est que pour votre lecteur, ça devient, c'est ça l'Afrique, c'est ça l'image. Donc, il ne faut pas, je ne dis pas que tout est positif en Afrique, loin de là. Et d'ailleurs, et ça, beaucoup de gens le savent, ceux qui s'intéressent à l'Afrique, les deux images existent, négatives et positives. Pas seulement pour le continent africain, chaque pays dans le monde, en Inde, aux États-Unis et ailleurs. Mais au moment où on en fait la seule histoire, l'unique histoire, et là, ça pose problème. Et surtout, pour le lecteur. Donc, c'est ce que j'aimerais ajouter.
Hervé, vous avez écrit plusieurs ouvrages sur le Maghreb, les banlieues en France et sur l'Afrique subsaharienne. Vous êtes américain d'origine camerounaise. Vous enseignez aussi un cours sur le génocide au Rwanda. Voudriez-vous nous dire votre intérêt sur le Rwanda et l'inscription de la postcolonie dans vos propres recherches?
Bien sûr, Eric. Mais avant, si vous me permettez un ou deux mots sur ce que je viens d'entendre, et je voudrais simplement renforcer ce que vient de dire Jean-Pierre. En genre, il ne s'agit pas de peindre une Afrique qui n'est pas Afrique réaliste, on va dire. Mais simplement, ce à quoi nous faisons allusion, et peut-être un défaut de formation, professeur, c'est justement d'avoir cette sorte d'image de prisme déformant. Le prisme déformant qui me rappelle, par exemple, hein, on va voir, comment on va dire, l'invention de Bokassa en anthropophage, par exemple. Mm-hmm. Donc, c'est ce type de discours-là qui s'accumule et qui font que, même quand le narrateur a une intention purement descriptive, il arrive très souvent que cette intention descriptive soit vite mise en relais d'une pensée idéologique qui serait de maintenir l'Afrique dans le gouffre. Ça c'est dans... Maintenant, pour connecter ce que je viens de dire à la question qu'Éric vient de poser, je crois qu'en fait, et d'ailleurs, puisqu'on y est, il est très étonnant, et j'écoutais Jean-Pierre tout à l'heure, il est très étonnant que le génocide rwandais, enfin le génocide des Tutsis au Rwanda, 94, soit plus enseigné ici que sur le continent africain. Et ça, je le dis parce que j'ai rencontré plusieurs étudiants, même des doctorants, dans l'Afrique, qui n'ont pas la moindre idée de ce qui s'est passé au Rwanda au-delà de le discours qu'on connaît, les Africains qui se découpaient entre eux. Une fois de plus, et vider de telles histoires de leur substance coloniale, de leur substance politique, c'est, une fois de plus, contribuer à remettre en jeu cette affaire, cette histoire, ou alors plutôt cette image d'une Afrique barbare. Et d'ailleurs, pendant qu'on y est, Eric, je voudrais bien qu'on m'explique, c'est quoi les ethnicités? Qui s'est jamais posé la question de savoir d'où viennent les ethnies? Parce qu'on parle de guerre ethnique, de guerre tribale, d'où viennent les ethnicités, d'où viennent les tribus? Et pourquoi n'y a-t-il de tribus qu'en Afrique, par exemple? Pourquoi quand les Californiens refusent de s'associer aux New Yorkais, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de tribus? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas d'ethnies? Donc c'est autant de questions qui m'amènent finalement à dire que le Rwanda, et je réponds très simplement à la question, le Rwanda est central pour moi, parce qu'en fait, ce qui s'est joué au Rwanda en 1994 devrait appeler toute l'Afrique à se repenser. Et à se repenser en tant, non pas en tant qu'une seule, mais à se repenser en tant que sa place dans le devenir de ce monde. On a vu au Rwanda le silence, non seulement, alors, tout le monde sait, on parle du silence de la communauté internationale, mais moi j'ai été davantage frappé par le silence même de l'Afrique pendant que ces choses se passaient au Rwanda. Et je pense que c'est une expérience tragique, mais une expérience tragique à partir de laquelle l'Afrique devrait pouvoir se repenser d'abord comme elle-même, avant d'engager ces nombreuses relations avec le monde extérieur au continent africain.
Nous arrivons au terme de cette édition de l'Amérique et vous. Merci de votre participation. Merci au docteur Anjan Kusundaram. Vous êtes... vous intéressez au journalisme post-colonial. Merci, Jean.
Merci, merci à
merci à Hervé, professeur des études postcoloniales dans le Texas. Merci.
Merci Eric, merci d'avoir eu.
Merci à vous aussi Jean-Pierre Léguéier. Merci à vous tous pour votre contribution. Merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis. Et le débat n'est pas fini. Dans l'édition suivante, nous allons nous focaliser sur le génocide au Rwanda. Merci à Lionel Manila Gaïma qui a assuré la mise en onde. Eric Manila qui a été à la présentation. Excellente soirée à vous tous. Au revoir.